Chapitre 13. Abat chamoiseau, il fait nuit, coupez la branche. La Ferté-Macé est une ville de 5 à 6 000 âmes, chef-lieu de canton, fabricant des coutis, des cotonnades, du 3-6, des tabatières et des casse-noisettes en buis. Tout le monde y est riche. Pour ceux qui aiment à faire longue et plantureuse ripaille, ces auberges sont célèbres à 20 lieues à la ronde. Les filles y sont jolies et les gars avisés, bien qu'ils se disent, entre sexes différents, à l'heure du berger, « Je t'aime en pur normand normandant ». Monsieur Badois, le digne homme, dont nous ne parlons pas souvent parce qu'il ne fait pas grand-chose, avait pris ses quartiers à l'hôtel du Cygne de la Croix et faisait l'honneur à la table d'hôte. Il jouissait du sincère appétit qui est le fruit d'une bonne conscience. Sans vouloir en rien nuire aux personnes honorables qui pratiquent la détection privée après avoir pris leur degré à la grande vénerie de la préfecture de police, nous engageons tous ceux qui ont une aiguille à chercher dans une charretée de foin à mettre des lunettes sur leur propre nez pour faire eux-mêmes leur besogne. Ce genre de chasse est métier d'artiste, après tout. Il exige une somme considérable d'initiative, une grande spontanéité et quelques vocations à couper dans les sentiers téméraires. Toute chose que les habitudes administratives émoussent ou tuent. Les boutiques mystérieuses où ces chercheurs non brevetés, plus nombreux à Paris qu'on ne le pense, vantent leur sorcellerie, sont pour nous aussi fantastiques que la caverne capitonnée où Madame Oracle, assistée de son diplômé, distribue des consultations somnambuliques. Du haut des cieux, en vérité, les charlatans du Moyen-Âge doivent rire en voyant les atroces plaisanteries qui remplacent leur naïveté mise au rebut. S'il vous faut absolument quelqu'un, prenez un chien libre, un animal sauvage. Clampin dit pistolet, par exemple, pourvu qu'il ne soit pas encore parvenu à se ranger. Monsieur Badois était rangé, archi-rangé. Il cherchait, avec mesure et méthode, selon la règle qui est de ne point trouver. Monsieur Badois avait néanmoins sur ses collègues un grand avantage, il admirait pistolet. C'était beaucoup. D'ordinaire, tous les savants qui n'ont pas inventé la vapeur la nient. Quand Pistolet arriva à l'auberge du Cygne de la Croix avec son protégé Vincent Goret, qui lui avait servi d'écuyer et de guide, il ne produisit pas un énorme effet sur les gros marchands de toile. On lui trouva méchante mine de voyou, et c'était justice. Il n'en dîna pas moins loyalement, prenant ses aises ici comme partout, et trouvant même occasion de faire quelques allusions à la haute vie qu'il avait menée dans l'intimité de Bobineau, l'un des premiers théâtres de la capitale. Aux questions de Badois, il se bornait à répondre « J'ai retrouvé Mèche, toujours agréable et fidèle, au milieu des sociétés huppées dont elle est désormais l'ornement. Ça a été pour nous le signal du bonheur. On va causer dans le particulier après dîner. » Tout est enlevé, et j'en apporte un échantillon dans la personne du petit Bêta ici présent, qui est le plus joli de l'histoire. Monsieur Badois, impatient, voulait quitter la table, mais Pistolet, approuvé en ceci par Vincent Goret, ne fit pas grâce d'un seul plat. « Voilà, dit-il enfin, en buvant la dernière goutte de son Gloria. Montons chez vous, patron, pour y déposer le bancroche, qui vaut je ne sais plus combien de 1 000 000 000. » Il n'est pas trop mal tenu pour le mener à la gendarmerie. À la gendarmerie, répéta Badois, étonné. On vous dit que ça s'avance vers le dénouement, repartit le gamin. Ça finira par la scène du duel, où le traître a placé un affidé avec une carabine chargée dans les halliers du ravin de la montagne, plein de ronces et d'épines, pour démolir Monsieur Paul Labre, censé, en feignant que ça soit les hasards d'un combat singulier. « Monsieur le baron se bat en duel ?» s'écria l'ancien inspecteur. « Ne m'en parlez pas, il faut que ça gêne le travail. Les gens comme lui, vous savez bien, toujours dans les jambes et à la traverse. Les habits noirs sont les témoins de l'assassin de son frère, comme de juste. Ça fera tout de même un crâne tableau. Vous ai-je dit qu'ils avaient fait passer le goût du pain à maman Soulas ?» Badois pâlit et murmura « Madame Thérèse est morte !» Ah, pauvre Minet, dit le gamin, mou, 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 avait-elle une voix douce pour son âge, cette femme-là? Ah, je sentais qu'on allait la victimer, mais je croyais avoir le temps. Ah, patron, ça marche vite. Toi, s'interrompit-il, en s'adressant à Vincent, qui venait de pousser dans la chambre de l'ancien inspecteur, couche-toi par terre et dors. Si tu bouges, une trempée. Quand tu auras hérité de ta maman, on te parlera avec plus de politesse pour ton argent, si tu en es prodigue. Il passa son bras sous celui de Monsieur Badois et poursuivit en redescendant l'escalier. Ce n'est pas un vain songe, patron, c'est pour la maman de cet animal-là que toute la clique et reclique défera-t-il jour demain, empoisonne le pays. Elle a de quoi acheter Paris et la banlieue avec la moitié de ses économies. Attention, je commence. Primo, d'abord, c'est Monsieur Labre qui doit payer la loi pour la chose que maman Soulas a été assassinée. À dater de cet instant, l'ancien inspecteur n'interrompit plus. Pistolet lui raconta à sa manière, mais avec une lucidité parfaite, tout ce qu'il avait vu, tout ce qu'il avait deviné, tout ce qu'il avait surpris. Monsieur Badois perdait plante littéralement dans cet océan d'intrigue. Il était de Paris, il avait juste la somme d'imagination qui distingue le pur indigène des bas-quartiers parisiens, le vrai provincial de Paris. Le côté excentrique et campagnard de l'histoire lui parut invraisemblable comme une féerie. Les habits noirs étaient des malfaiteurs sérieux. À son sens, ils ne pouvaient user les immenses ressources de leur association à de pareilles folies. « Patron, lui dit le gamin, vous êtes un homme de bonne mœurs et juste ce qu'il faut pour réussir dans l'administration, mais vous n'avez pas voyagé, ça vous déforme. » En Esquimauti, j'ai trouvé un mari qui m'a donné un petit verre d'eau de vie de baleine, deux pipes de tabac, une oreille d'ours et un bonnet de nuit en arête de poisson pour que j'accorde mes faveurs à sa dame. Son honneur en dépendait. Chaque pays, chaque tocade. Les habits noirs ont mis leur mécanique à la portée de la localité. Rue Saint-Denis, chez nous, ils auraient changé le Louis XVII en Milord anglais, voilà tout. Quant aux milias de la bonne femme à barbe, garantie première qualité, tout laine. On arrivait à la porte de cet édifice qui porte sous le drapeau tricolore, dans toutes les petites villes, la solennelle légende « gendarmerie départementale ». Pistolet était d'opinion qu'on se servit, pour mettre la force armée en mouvement, de la simple déclaration du meurtre commis sous la personne de Thérèse Soulas. Il se trouva que l'autorité, déjà informée, avait fait le nécessaire. La tête de Monsieur Badois n'était ni assez large ni assez forte pour contenir tout ce que lui avait dit le gamin. Il parla en un moment où celui-ci faisait de la diplomatie avec le brigadier. Il parla de M. Nicolas, des gens de Paris, de la conspiration et des étranges batteries dirigées contre le coffre-fort de la Gorée. La prudence des sénateurs de la Ferté-Macé n'avait pas été mise à pareille épreuve depuis la fondation de la ville. Il y eut conseil, et dès l'abord M. Badois fut en butte à de violents soupçons. La tournure de son aide-de-camp Pistolet ne contribua pas peu à ce résultat. Après une délibération longue et un peu confuse, le juge de paix, le commissaire de police et le dernier gendarme disponible, commandé par le brigadier, durent prendre la route de Mortefontaine pour arrêter le baron d'Arcis, contre qui s'élevaient des préventions formidables, et ramener probablement en fourgon cet officieux M. Badois avec son aide, porteur d'une si méchante mine. Tel était l'avis général parmi les représentants de l'autorité à la Ferté-Macé. Les magistrats partirent en charrette, les deux gendarmes allèrent à cheval, ainsi que M. Badois et Pistolet qu'on gardait positivement à vue. Vincent Goret fut laissé à l'hôtel. Il pouvait être 4 heures du matin quand la caravane se mit en marche. M. Badois était agité de fâcheux pressentiments. Il n'y avait pas au monde, auprès des petits fonctionnaires, une plus mauvaise recommandation que le titre d'ancien agent. On ne quitte pas cette place, si misérable qu'elle puisse paraître, sans y être forcé. Jusqu'à plus ample informé, un ancien agent est pour tous ceux qui s'y connaissent un agent destitué. Ajoutez à cela l'antagonisme des fonctionnaires de province contre les barreaux de Paris, et vous comprendrez la mélancolie de ce malheureux Badois, combattant seul et sans recours en pays ennemi. Il voulut causer avec Pistolet, Pistolet lui tourna le dos en disant Patron, tout le monde ne peut pas inventer la poudre. L'atout vous manque, quoi. Dans ces cas-là, il faut pas jouer son jeu, bouder. Et il poussa son bidet de façon à se mettre sur la même ligne que le grand cheval du brigadier. Il y a du temps assez que je connais le nom de chamoiseau, commença-t-il d'un ton insinuant. Je ne m'attendais pas à avoir l'avantage de faire la connaissance du militaire qui le porte avec honneur. Dans la cour de la gendarmerie, Pistolet avait entendu qu'on appelait le brigadier Monsieur Chamoiseau. Celui-ci répondit: Le bavardage est un inconvénient dans ma garde. Filez à gauche. Pistolet murmura: Parler n'est pas bavarder, et le temps approche où vous occuperez un plus haut grade, s'il y a de la justice dans le gouvernement. Le brigadier se tint plus droit sur son cheval. On vous observe de filer en douceur, dit-il gravement. Nous n'avons ni le même âge, ni la même tenue, ni la même position dans la société. Le gamin se dit, ce serait drôle de passer la jambe aux gendarmes. Heureusement, je suis dans la cavalerie. Soulagé par cette réflexion, il reprit avec humilité, Ah, vous êtes grand et je suis petit, ça c'est vrai, brigadier. Mais n'empêche que j'ai fait partie comme vous de l'armée française. À la suite d'importants voyages autour du monde, entrepris pour me ranger, en perfectionnant mon éducation et la langue maternelle, j'ai servi Zéphyr en Alger, tel que vous me voyez. Le brigadier resta un instant silencieux, puis il laissa tomber ses méprisantes paroles. Le gendarme est le choix du militaire, les compagnies de discipline en est l'écume. Je vous réitère de filer au large, et de plus en plus péremptoirement. La patience n'était pas le fort de Pistolet. Il interrogeait déjà sa téméraire imaginative pour savoir comment on pourrait bien se passer des gendarmes et de l'autorité de la Ferté-Macé qui évidemment était mal disposée lorsqu'il eut l'idée de jeter ce dernier mot. Oh, on en fréquente de plus huppés que vous, brigadier, nourrissant des rapports avec l'administration centrale, d'où se répandent sur toute l'étendue de la patrie les avancements, faveurs et gratifications. On n'avait qu'un but, c'était de savoir pourquoi le nommé Louveau, dit Troubadour, a le bras gauche décoré de cette devise à bas chamoiseau. Le brigadier avait écouté les premiers mots avec une superbe indifférence, mais au nom de Louveau, dit Troubadour, il tressaillit, comme si sa selle d'ordonnance se fût hérissée d'aiguilles. Tant il est vrai que les cœurs les plus hautement cuirassés contre l'émotion ont leur endroit sensible. Pistolet voyait tout. Le mouvement du brave homme n'avait pu lui échapper. Il se hâta d'ajouter, en faisant demi-tour à gauche, Conséquemment, puisque ma conversation a le don de vous déplaire, à l'avantage. Jeune homme, dit le brigadier d'un ton radouci, faites-moi l'amitié de rester. J'ai à vous interroger. J'ai connu ce Louveau dans les temps. Êtes-vous camarades ensemble? La loyauté de la gendarmerie est proverbiale, mais il n'y a point de guerre possible sans stratagème. Le brigadier tendait ici un piège. Pistolet répliqua ingénument, à peu près comme le loup est le camarade de l'agneau dans les fables de La Fontaine, qui est une pièce de Bobino représentée avec succès en 1934. Hein. Où avez-vous vu le particulier, jeune homme? Ici, dans le pays, où j'ai passé l'inspection de ses bras tatoués du haut en bas pendant qu'il dormait, en patache. Il y a longtemps. C'était hier, 6 ou 8 heures avant la chose, que la veuve Thérèse Soulas a été victimée à la belle vue du fou. Certes, Pistolet avait mauvaise mine, mais son style élevé allait au cœur du brigadier. La gendarmerie est folle du beau langage. Jeune homme, dit Chamoiseau, qui ralentit le pas de son coursier, si le Zéphyr n'a pas de conduite, c'est la faute de sa jeunesse orageuse. On en cite des traits de bravoure dans tous les journaux. Vous m'inspirez de l'intérêt, malgré votre dégaine qui laisse trop à désirer. Ah, fit Pistolet, à qui le dites-vous? Ma cassure élégante a fait mon malheur. Je la dois à la fréquentation des jeunes artistes dramatiques à la mode dans Paris. Est-ce que vous ne seriez pas partisan de contrepincer Louveau, dit Troubadour, brigadier? Le ton de celui-ci devint tout à coup amical. Si vous m'en communiquez l'occasion, jeunesse, répliqua-t-il en baissant la voix, je vous ferai la politesse d'un déjeuner bourgeois à l'auberge. Top! S'écria le gamin. À dater de ce moment, Chamoiseau et lui furent une paire d'amis. Chamoiseau expliqua comme quoi le troubadour lui avait déjà passé deux fois par les mains. « À la troisième, on fera une croix, conclut-il, et j'aurai l'honneur qu'il ne s'écrira plus sur le corps d'autres invectives contre ma personne. Je l'ai déjà flanqué à Brest et à Toulon. Reste Rochefort ou la guillotine. C'est des jeux de la destinée qui divertissent le gendarme sans prouver qu'il a un mauvais cœur. » Quand les premières lueurs du jour se montrèrent, Pistolet et son brigadier chevauchaient à plus de 100 pas en avant de la caravane. Le brigadier était incapable de trahir les secrets de l'autorité, mais Clampin l'avait vidé comme une noix de coco. Il savait que le faux prince avait pris les devants avec résolution et habileté, qu'on avait pour lui beaucoup de respect dans le petit monde officiel de la Ferté-Macé, et qu'il était en outre protégé par des instructions venues de Paris. Clampin savait de plus qu'au contraire, toutes les autorités normandes regardaient déjà la culpabilité de Paul Labre comme probable. Au moment où on arrivait en vue de Mortefontaine, 5 heures sonnaient à la petite église. Pistolet quitta son compagnon en disant « Brigadier, je suis de votre avis, c'est des comptes à dormir debout qu'on fait sur les habits noirs, et M. Nicolas est un honnête propriétaire, mais Louveau du Troubadour, par exemple… « Ah, celui-là, c'est mon affaire, jeune homme. »« Brigadier, dans 3 quarts d'heure, à la lisière du taillis, on est à droite de la belle vue du fou. Ouvrez l'œil. » Pistolet rejoignit le gros de la caravane et toucha le bras de M. Badois en murmurant « Vous, patron, c'est de ne rien faire. Vous entendez rien, rien, rien. » La Gaule qu'il tenait à la main souffleta les oreilles de son bidet et il partit au grand galop. 10 minutes après, il sonnait à la porte du château neuf Goré et exigeait impérieusement d'être introduit auprès de M. Lecoq de la Perrière. En entrant dans la chambre de ce dernier, il dit « Maître, je ne veux pas que vous m'interrogiez. Ce que je vais vous apprendre, je le sais par une femme. Vous m'écraseriez avant de m'arracher son nom. Entre vous et le prince, c'est désormais à qui frappera le premier. » « Si vous ne le tuez pas, il vous tuera. Vous voilà averti. Je ne demande rien pour ça. Serviteur, de tout mon cœur. » Ayant ainsi parlé, Pistolet fit mine de sortir, mais M. Lecoq était déjà entre lui et la porte. Le gamin se laissa barrer le passage. Quand M. Lecoq poussa le verrou, il dit seulement « Causons, vite et bien, j'ai de l'ouvrage. » M. Lecoq et lui causèrent. En se quittant, ils avaient l'air d'être une paire d'amis. À la suite de cette entrevue, Pistolet remonta à cheval et s'en alla au rendez-vous de son brigadier, pensant à part lui, on n'a toujours pas épargné son bœuf à la mode. Mazette, le tableau du duel va chauffer. 6 heures sonnant, 2 voitures débouchèrent au carrefour du Fou, sous la belle vue. L'une, venant du château Neuf-Goré, contenait le fils de Saint-Louis, M. Lecoq de la Perrière et le vénérable colonel Bozzo, qui avait froid de si beau matin et se pelotonnait dans sa douillette. L'autre n'avait que 2 hôtes, M. le baron d'Arcis et le général comte de Champmas. Les routes aboutissant à l'étoile, le carrefour, la plateforme, la forêt, tout semblait parfaitement désert. Et certes, c'était là un lieu bien choisi pour un duel, car de tous côtés, autour de la rencontre, des chemins, en marchant 200 ou 300 pas, il était facile de trouver, sous bois, des terrains propices. Dans chacune des voitures, il y avait une boîte de combat. Le général et Paul Labre descendirent les premiers. La voiture des gens de Paris s'était arrêtée à 50 pas de l'étoile sur la route qui descendait des Nouettes. Le prince et ses 2 compagnons mirent pied à terre. Le coq avait la main dans celle du prince, ils semblaient être les meilleurs amis du monde. « Ah, tout cela, dit le coq, est admirablement arrangé. Vous avez tout réglé et tout prévu. Le diable lui-même ne trouverait pas à mordre dans votre plan. Où est Louveau ? Tiens, tiens, le Paul Labre a trouvé un second, le général. » Le doigt du prince désigna furtivement le taillis à droite de la plateforme en réponse à cette question « Où est Louveau ?»« Ah, bonne portée, approuva le coq, et vous êtes sûr de la gendarmerie ?»« Le mot d'ordre est venu de Paris, répondit le beau Nicolas, on me ménage à outrance. Après tout, le général n'est que toléré. » Monsieur le coq lui serra encore la main. En vérité, fit-il, c'est dommage de n'avoir pas de spectateur pour une comédie si bien montée. Le fils de Saint-Louis répliqua, « Nous aurons pour spectateurs tous nos amis, car je les ai fait supplier de venir. » Le coq sourit. Le colonel murmura avec une tendre émotion, « Moi, j'ai toujours soutenu que notre Nicolas avait du talent, beaucoup de talent. L'union fait la force, aimez-vous comme des frères, et en besogne, mes chéris. Après la séance, je déjeunerai avec bien du plaisir. » Les deux groupes se rencontrèrent au centre du rond-point. Le général de Champmas salua le colonel Bozzo avec une respectueuse courtoisie. Le colonel lui dit, « Un bien joli temps ce matin, général. Je ne voulais pas croire que ce fût vous. »« J'éprouve le même étonnement de vous voir ici, » répondit M. de Champmas. « Monsieur, déclara Lecoq avec importance, je vous prie de ne point motiver votre surprise réciproque. Sur le terrain, chacun doit s'abstenir de toute parole pouvant blesser l'un ou l'autre des deux adversaires. » Il vous avait en vérité l'air d'un raffiné d'honneur. « Attendez-vous quelqu'un, monsieur le baron, » ajouta-t-il, « la présence d'un seul témoin ne me paraît pas régulière. » « Un seul témoin suffit pour faire une déclaration, » repartit M. de Champmas. « Ah ah !» fit le coq, « s'il ne s'agit que d'une déclaration, alors, s'il vous plaît, pourquoi cet objet ?» Il désigna d'un geste moqueur la boîte de combat que le général tenait à la main. « Pour vous, si vous êtes un honnête homme, monsieur, » répliqua gravement M. de Champmas. « Je suis habitué à estimer, à vénérer le colonel Bozzo que j'ai rencontré autrefois dans des circonstances qu'il honore et dans un monde que je respecte. Vous, je ne vous connais pas. Mais je connais celui-ci, » ajouta-t-il en se tournant en tue d'une pièce vers le prince. « On ne se bat pas avec un homme de sa sorte. » La scène du duel, comme l'avait désigné d'avance notre ami Pistolet, ne se dessinait pas d'une façon ordinaire. Paulhabre avait les yeux sur le beau Nicolas, qui affectait un air de superbe indifférence. « Connaissez-vous la véritable position sociale de l'homme que vous vous outragez, monsieur ?» demanda Lecoq avec emphase. « Oui, » répondit le général, « je la connais. »« Auriez-vous vraiment quelques sérieuses objections ?» demanda encore Lecoq. Le général l'interrompit, disant d'une voix nettement accentuée, « Cet homme est un imposteur. Cet homme est affilié à une association de malfaiteurs dont il est peut-être le chef et qui porte un nom redouté, les habits noirs. Et cet homme a essayé de m'assassiner. Cet homme a assassiné Jean Labre, frère de monsieur le baron d'Arcis. » Le colonel joignit ses mains maigres et tremblantes. « Les habits noirs » répéta-t-il avec une sainte horreur. « Ah, grand Dieu !» Monsieur Lecoq le calma du geste. Le prince souriait avec dédain. « Ce n'est pas encore commencé, » dit une voix chuchotant derrière la haie d'un champ voisin. « Arrivez !» C'était le neveu du Mollard, appelant le chevalier et la chevalière le Camus de la Prunelet, qui se hâtait martialement à travers les blés coupés. Le neveu du Mollard et le chevalier étaient armés en guerre. Dans le sentier qui descendait la rampe, on put voir les deux jeunes messieurs portiers de la grille, munis chacun d'un fusil et de deux pistolets, qui se glissaient à pas de loup. En même temps, au sommet du belvédère, la silhouette de l'ancien élève de l'école, M. Lefébure, futur ministre des Travaux publics, se dessina. Il avait un sabre et une lorgnette de spectacle. Partout, sur les six routes, on voyait maintenant un mouvement de gens à pied, à cheval et en voiture. La conspiration venait au secours de son chef. « Parfait, » dit Lecoq à l'oreille du prince. « Ah, mon gaillard, c'est mené. »« Il a du talent comme un ange, » murmura le colonel, qui ajouta, en serrant le bras de Lecoq. « Toi, l'amitié, je n'aime pas ton air. Tu montes un coup. »« Allons donc, » fit M. Lecoq. « Voilà les gendarmes. » Il était radieux, et en effet, une escouade de gendarmerie à cheval sortait du bois en ce moment. Le brigadier qui commandait n'était pas chamoiseau. À quelques pas de l'escouade, les autorités de la Ferté-Massé marchaient en bon ordre. « Superbe !» dit Lecoq. « Magnifique ! Complet !»« Mes chers messieurs, » reprit-il en s'adressant à Paulhabre et au général, « j'ai ouï causer vaguement de ces habits noirs. Ce sont d'adroits coquins, à ce qu'il paraît, car on ne les voit pas souvent en cour d'assises. Parlons net, maintenant que nous ne sommes plus seuls, car je ne vous cache pas que l'idée d'un duel nous paraissait aussi absurde qu'à vous. Et la chose singulière, c'est que nous avions les mêmes motifs pour cela. Vous avez prononcé les premiers le mot assassinat, nous le répétons après vous. Mais il ne s'agit plus de l'honorable comte de Champmas, dont la santé me paraît parfaite, ni de feu monsieur Jean Labre, de qui monsieur le baron d'Arcis a bel et bien hérité. Il s'agit d'un meurtre, malheureusement certain et actuel, du meurtre de Thérèse Soulas. Et je voudrais exprimer ma pensée sans blesser le général, mais nous ne nous serions pas attendus à le voir du côté du meurtrier. Sur le visage de Paul, il y avait une pâleur mortelle. Il voyait le piège ouvert sous ses pas. Il sentait la main irrésistible qui l'y poussait. Il n'avait pas encore prononcé une parole. Il dit « Ces hommes sont-ils vraiment plus forts que la vérité et que la loi ?»« Ils font ce qu'ils peuvent, » murmura le vieux colonel, à l'oreille du prince dont il s'était rapproché. « C'est une jolie aventure. » « As-tu vu, mon bon chéri, comme l'amitié a été de franc jeu, il t'adore. »« Sur Dieu, sur la mémoire de mon père, sur tout ce qui est sacré !» s'écria en ce moment Paul Labre, révolté contre le mensonge qui l'écrasait. « Je jure que cet homme a tué Thérèse Soulas comme il a tué mon frère bien-aimé. » Il y eut autour de lui un grand murmure, car la foule s'était formée. Les gendarmes, immobiles maintenant, avaient laissé passer l'autorité, à savoir monsieur le juge de paix, son greffier et le commissaire de police. Ces trois fonctionnaires avaient salué le fils de Saint-Louis avec une sorte de dévotion. « Moi, je jure, dit monsieur Lecoq, qu'à l'heure où le coup de fusil a été tiré, et nous l'avons tous parfaitement entendu, monsieur Nicolas était au milieu de nous, en son château, sis au lieu des nouettes, et je somme nos amis et voisins de porter témoignage. » Ce fut un cri général, une formidable clameur faite de toute la réponse croisée. La conspiration entière témoigna d'une seule voix, les hommes, les femmes et l'ancien élève de l'école. « J'y étais, » dit le chevalier de la Prunelée. « Son Altesse, j'entends, monsieur Nicolas, venait de finir son café au lait, je le jure. »« C'était l'heure du grand lever, je le jure, » ajouta Poulain l'affûteur, « qu'on me donne en poignée cet oiseau-là, on n'a pas besoin de ces frileux de gendarmes. » « Quand le coup de fusil a parti, » cria un portier de la grille, « le prince tournait ses pouces, je le jure. » Madame Lacamus de la Prunelée dit « Comme son Altesse royale tourne bien ses pouces !» Dumollard, le neveu, appuya « Je le jure !»« Je le jure !» répéta ce bon vieux colonel, qui ajouta en pinçant, comme un espiègle qu'il était, la main du fils de Saint-Louis, « Comme ce l'amitié y va, Bibi, c'est un cœur !» Le coq y allait supérieurement, en effet, c'était lui qui menait l'affaire. Successivement, cependant, la plupart des gens de Paris étaient arrivés. Il y avait certainement convocation, et personne n'avait cru au duel en dehors des naïfs de la conspiration. Madame la comtesse de Clèves descendit de son équipage, accompagnée par son fidèle Annibal Guillaujat, chevalier d'honneur de la reine Gorée. On voyait dans les groupes le docteur Samuel, l'abbé X, Cocotte, Picpus, mademoiselle Pruneau et Mèche. Madame la comtesse de Clèves se plaça à côté du prince. Quand elle passa devant le coq, celui-ci lui demanda tout bas « La poste est-elle arrivée ?» La comtesse répondit affirmativement. Le coq demanda encore « Avons-nous la chose ?» La comtesse de Clèves montra du doigt Annibal qui salua en souriant. « Messieurs, dit le fébure de l'école aux autorités, je n'ai pas de conseil à vous donner, mais il est temps de faire cesser ce scandale. Vous êtes fixés, agissez. S'il le faut, j'ajoute mon témoignage à ceux que vous possédez déjà. Il a la valeur de mon caractère, je le jure. » Simple maître des forges, ce lefébure avait la majesté d'une table de logarithme. Il eut décoré un ministère. L'autorité s'ébranla à sa voix, bien que les divers fonctionnaires chargés des destinées du canton ne fussent pas sans éprouver quelque hésitation. Le juge de paix risqua cette opinion que monsieur le commissaire de police n'avait pas droit d'arrêter un citoyen sans mandat, hors du cas du flagrant délit. La conspiration s'impatientait et parlait d'empoigner le général avec Paul Labre. On songeait à faire un coup d'État. « Avancez, brigadier !» cria en ce moment une voix retentissante sous le fourré. « À droite de la plateforme. Pour le coup, je m'amuse. Je vous avais dit que je vous dénicherais votre troubadour. Ai-je menti? En cherchant bien, on en trouverait d'autres. » « Qu'est-ce cela ? » demanda Monsieur Lecoq d'un air sincèrement étonné. « Encore des gendarmes? Il en pleut aujourd'hui !» Chamoiseau sortait du bois à pied, tenant d'une main la bride de son cheval et de l'autre une forte corde qui serrait le cou de Louveau, dit troubadour, lequel se laissa traîner la tête basse et les mains dans ses poches. Les autorités, il faut l'avouer, furent bien aises de cette diversion qui donnait du temps et qui promettait de dessiner la situation. Mais le prince pâlit, et ce bon colonel regarda M. Lecoq d'un air inquiet. Derrière le brigadier Chamoiseau, son gendarme venait à cheval, et derrière encore M. Badois, précédent pistolet qui avait ses mains dans ses poches aussi, mais la tête haute, le chapeau sur l'oreille, le nez au vent, un vrai vainqueur. « Messieurs et dames, dit-il, on patauge ici drôlement, sans vouloir affronter les fonctionnaires. Voilà Louveau, dit Troubadour, le coupable de la veuve Soulas, pauvre femme. » Que j'ai l'honneur de vous présenter en récidive de forçats libérés et autres. Il n'est pas beau, mais on ne se fait pas. Et Monsieur Chamoiseau l'a contrepincé, comme il dit, par mon canal, embusqué là, sous l'ombrage, avec son fusil chargé, amorcé et armé, dans l'intention de conférer une balle à Monsieur le baron d'Arcis, au cas où on se serait battu en duel ce matin. Il prit le fusil des mains du gendarme et vint l'apporter au centre du cercle formé par les assistants. « Voilà l'objet, » ajouta-t-il en posant l'arme à terre. Badois s'était approché de Paul Labre. Il lui dit tout bas, « Il faudra donner une malle de gratification à ce petit-là, monsieur le baron. « Bonjour, général, » cria de loin Pistolet, qui salua militairement. « Vous en aviez de crânes cigares à bord du Robert Surcouf au début de mes voyages. Bien content de vous voir en bonne santé. On va s'amuser. » Les membres de la conspiration écoutaient et regardaient sans comprendre. Les gens de Paris s'étaient groupés autour du prince, qui conservait son attitude dédaigneuse, bien qu'un léger tremblement agita par intervalle les coins de ses lèvres. Le brigadier Chamoiseau, droit sur ses jambes bottées et campé fièrement, avait lâché le licou qui retenait Louveau pour le saisir par le bras. À l'endroit où sa robuste main meurtrissait les muscles du bandit, on pouvait lire sur sa peau gonflée « Abat Chamoiseau ». Le hasard a de ses jeux. « L'enfant dit vrai, prononça-t-il, avec gravité, malgré qu'il possède l'extérieur d'un méchant galopin. C'est la troisième fois que je plonge cet animal-là dans les fers. Mon aspect bien connu a été pour lui la tête de Méduse. Il a exhalé un grognement de sauvage, dans quoi on a discerné l'aveu qu'il était là pour tricher dans un duel à l'arme à feu. « Je ne souffrirai pas qu'on insulte son Altesse royale !» s'écria le chevalier de la Prunelée. « Ce sont évidemment des manœuvres de la quasi-légitimité !» Le prince lui imposa silence d'un geste magistral, mais l'autorité avait entendu. « Monsieur le chevalier, dit le juge de paix, le gouvernement peut avoir pitié de certaines folies quand elles restent douces. Soyez prudent, s'il vous plaît. » La chevalière fut obligée d'entourer de ses bras le futur préfet de l'Orne pour l'empêcher de saisir ses pistolets. Toute la conspiration frémissait. Les deux fils portiers de la grille eurent un instant la pensée de crier aux armes et de destituer Louis-Philippe sur place, séance tenante. Quelque chose de plus sérieux se passait entre cet excellent colonel et Monsieur Lecoq. Le premier avait mis ses lunettes à cheval sur son nez. Il dit, après avoir examiné curieusement Pistolet, « L'amitié, tu joues gros jeu, c'est le petit d'hier. Songe qu'il y a des millions derrière notre ami Nicolas. » Le coq haussa les épaules et répondit, « Derrière Nicolas, il n'y a rien du tout. La Gorée avait le cou trop court. Gare aux attaques. D'ailleurs, ajouta-t-il, je prends tout sur moi. L'association est en péril, je la sauve. » Le vieillard remit ses lunettes dans leur étui et se rapprocha du prince qui lui dit tout bas « Je savais que Toulonnet trahissait. Il est perdu, je l'ai condamné. » Le colonel, au lieu de répondre, interrogea d'un regard aigu les visages des habits noirs. Tous étaient impassibles. Pendant cela, le commissaire de police demandait à Pistolet « Qui êtes-vous, l'ami ?»«
Un jeune homme de Paris, » répondit notre gamin, « formé par de nombreux voyages à l'étranger, sans position officielle, mais ayant été plusieurs fois mélangé à l'autorité par occasion. » N'ayant pas sur moi de passeport, je ne demande pas mieux que d'aller au violon, pourvu qu'on procède régulièrement et qu'on arrête aussi Troubadour et son cornac, monsieur Nicolas, à cette fin que la cause se présente devant une justice plus centrale et moins villageoise que vous. Assurez-vous de ce jeune homme, ordonna le commissaire, qui fit en même temps à Chamoiseau signe d'approcher avec son prisonnier. Le Pistolet alla de lui-même se mettre entre les deux gendarmes. Le commissaire de police, s'adressant à Louveau, qui tenait les yeux baissés d'un air stupide, lui enjoignit de renouveler ses aveux. Louveau garda le silence. En ce moment, une voix sourde, que chacun put entendre, sans que personne ne sût d'où elle partait, prononça ces étranges paroles « Il fait nuit ». Les assistants se regardèrent étonnés, car le soleil du matin inondait le paysage. Le prince était devenu plus pâle qu'un mort. Les gens de Paris, d'un mouvement instinctif, s'éloignèrent de lui, à l'exception de monsieur Lecoq, qui, seul au milieu de tous ces visages inquiets, gardait une contenance tranquille. Et nous savons qu'il faisait jour, parfois à minuit, pour les habits noirs. Il faisait jour chaque fois que la ténébreuse association appelait ses membres à l'œuvre. Il faisait nuit, au contraire, dès que la retraite était sonnée. Et quand ce commandement sinistre était lancé, comme aujourd'hui, au beau milieu d'une dangereuse opération, il signifiait, la plupart du temps, que l'association abandonnait un ou plusieurs de ses membres à la grâce du hasard et à leurs propres ressources. Ainsi voit-on parfois, en temps de guerre, la raison supérieure du salut de tous forcer un vaillant général d'armée à laisser sans secours des bataillons entourés par l'ennemi. C'est souvent la douloureuse condamnation de ces témérités dont le succès eût fait des actes d'héroïsme immortels. Il fait nuit, dans la langue sacramentelle des frères de la Merci et de leurs successeurs, les habits noirs, impliquaient aussi expressément la condamnation des troupes trop engagées. C'était la peine passive, infligée au nom de l'intérêt général, à l'imprudence ou au malheur. La peine active, celle qui nécessitait un exécuteur des hautes œuvres de la confrérie, s'exprimait par une autre locution métaphorique dont nous avons parlé déjà. On disait en ce cas « couper la branche ». Cette explication suffit pour donner à penser au lecteur combien étaient différentes les impressions de ceux qui avaient entendu prononcer les bizarres paroles « il fait nuit ». Il y avait parmi les fonctionnaires un étonnement sans arrière-pensée. Les membres de la conspiration se demandaient la signification de ce mystérieux mot d'ordre. Les gens de Paris, sachant qu'ils étaient tout près d'une solennelle péripétie, attendaient, inquiets et frappés. C'était une heure solennelle et dangereuse pour tous. Les plus hauts placés dans le conseil ne savaient pas bien eux-mêmes le secret de la puissance cachée qui menait la confrérie. Le colonel était le chef nominal, mais d'autres influences dominaient la sienne. Lecoq et Nicolas, jeunes tous deux et tous deux forts, avaient tour à tour emporté la balance et l'opulente affaire à la tête de laquelle se trouvait en ce moment Nicolas lui donnait un réel avantage dans la circonstance actuelle. Mais, d'un autre côté, jusqu'à présent, tous ceux qui avaient fait ombrage à Lecoq étaient morts. Le trouble du prince fut profond, mais vivement réprimé. Il ne s'attendait pas à ce coup, en même temps perfide et audacieux, qui établissait un duel privé sur le terrain même où se livrait une bataille générale. Il promena un regard assuré sur l'assemblée et dit, essayant de faire tomber sur autrui l'anathème mystérieux, « Je ne connais pas cet homme et je demande que justice soit faite. » Sa main étendue montrait Louveau. Le regard de celui-ci glissa entre ses paupières demi-fermées. « Messieurs, » prononça Lecoq froidement et en s'adressant aux gens de Paris, « le colonel et moi, nous sommes les témoins de monsieur Nicolas. L'accusation, dont il semble devenir l'objet, est tellement invraisemblable, » interrompit le colonel. tellement invraisemblable, répéta le coq, et nous sommes si intéressés à la voir tomber devant la vérité que j'adjure, monsieur le commissaire de police, de continuer publiquement l'interrogatoire. Pour ma part, je ne puis croire que notre ami ait des relations avec un pareil homme. À la bonne heure, fit le chevalier, moi j'en mettrai ma main au feu. Le commissaire intima de nouveau au prisonnier l'ordre de répéter ses aveux. « Quoi donc ? » répliqua cette fois Troubadour. « La chance n'y est pas. Si j'avais trouvé monsieur Chamoiseau dans la forêt, entre quatre yeux, j'aurais eu sa peau, pas vrai ? Mais il y avait le petit bonhomme avec qui j'ai voyagé dans la patache d'Alençon. Ce petit-là est malin comme un singe. S'il fait nuit, c'est bon, allumez la chandelle. Quoi donc, le prince, c'est prince comme moi et duc comme ma savate. Ça paie mal. Je n'ai eu presque rien pour la femme Soulas hier. Et aujourd'hui, je n'aurais pas eu davantage pour monsieur le baron, là-bas. Mais il me tenait par le cou. Il me disait, travaille ou je t'attache un boulet à la patte. Je m'en moque maintenant. C'est fini de rire. J'en ai pour la perpétuité ou pour mieux que ça. Bonsoir, les voisins. Tant pis pour moi et tant mieux pour ce gueux de chamoiseau. Nicolas, monsieur le baron l'a échappé belle, mais te voilà dégommé. Je m'amuse, ponctua Pistolet. Vous en faut-il un quarteron de plus, monsieur le commissaire? Demandez, on va vous servir. Son regard espiègle caressait monsieur Lecoq. Monsieur, prononça lentement le beau Nicolas, personne ici n'ignore ni ma position ni mes infortunes. La malédiction semble poursuivre en moi la dernière goutte d'un sang illustre. Je ne m'abaisserai pas à prononcer un seul mot pour repousser une pareille accusation. Que m'importait cette malheureuse femme, Thérèse Soulas? Qu'avais-je besoin d'accepter le cartel de monsieur le baron? Quoi de commun entre moi et ce rebut de l'humanité que mes cruels ennemis ont lâché contre moi comme un chien féroce? Je remercie ceux qui m'ont aimé, je pardonne à ceux qui me persécutent. Puisque la France n'a plus de toit où je puisse abriter ma tête, je m'exilerai. C'est ce qu'on veut, sans doute. C'est ce qu'on veut, s'écria le fougueux chevalier, c'est tout ce qu'on veut. Ah, le gouvernement est habile. Résistons, opina le neveu de Mollard, par les armes. Sachons mourir, clamèrent les portiers de la grille. Les dames de la conspiration pleuraient à chaudes larmes. L'ancien élève de l'école opéra sa retraite en disant avec dignité « Malheureux roi, malheureuse France !» Le général de Chamas se semblait depuis quelques instants faire effort pour contenir Paul Labre. « Colonel Bozzo, dit-il enfin, je crois sincèrement que vous avez été trompé comme beaucoup d'autres par cet homme. Votre erreur doit avoir cessé. » Je ne puis, posé comme je le suis en adversaire du gouvernement, exercer aucune influence sur ses employés. Je vous adjure de vous prononcer. « Ah, général, ah, général, répliqua le vieillard en gémissant, je suis navré, écrasé, ne me demandez rien, vous parlez à un mort, je suis sûr que je ne m'en relèverai pas. » Paul Labre se dégagea de l'étreinte de monsieur de Chamas et fit un pas vers les fonctionnaires. « Messieurs, dit-il, tous ceux qui ont été accusés ici doivent rester sous la main de la justice. J'offre de me constituer prisonnier sur l'heure. »« Pourvu qu'on coffre son Altesse royale, bien entendu, » acheva Pistolet. L'embarras des autorités était au comble. Elles se consultaient et se disputaient. Le commissaire de police se mit fin au débat en déclarant sèchement au juge de paix « Vous n'y entendez rien, j'ai mes instructions formelles. » Les intrigues des habits noirs étaient bâties à chaud et à sable. Nul ne saurait dire où s'arrêtaient leurs aboutissants. Monsieur Lecoq lui-même avait puissamment contribué à dresser autour de l'affaire le rempart qui lui plaisait de saper maintenant auprès d'une perte immense. Monsieur Lecoq était un terrible assiégeant, mais son effort s'émoussait contre son propre ouvrage, des instructions venues de haut et de loin. Les gens de Paris, qui avaient attentivement interrogé la physionomie des fonctionnaires, marquèrent un point au fils de Saint-Louis. L'abbé X et le docteur Samuel se rapprochèrent de lui, disant tout bas « Nous sommes avec vous, prince, tenez ferme !» Il y avait en faveur de Nicolas les millions de Mathurine Gorée. En même temps, la conspiration, dont les membres étaient tous armés et s'enhardissaient jusqu'à l'héroïsme, à voir l'attitude gênée de l'autorité, prenait corps et se massait autour de son roi comme une garde fidèle. Le colonel restait entre deux, fort abattu en apparence, mais gardant parmi les rides de ses vieilles joues son sourire sceptique et matois. Il s'ébranla pourtant quand il vit Lecoq lui-même aller vers le prince et lui dire avec sa brusque rondeur « Prince, il n'est plus besoin de cacher votre titre, puisque c'est ici le secret de la comédie. Mon avis est qu'un gouvernement s'honore en donnant à ses agents ses consignes de noble et large tolérance. Personne ici ne vous soupçonne. D'ailleurs, on connaît votre demeure. Ceux qui voudront vous trouver vous trouveront. Éloignons-nous. » « C'est cela !» s'écria le bon vieux colonel. « Nous n'avons plus rien à faire ici. Venez, mes bons petits enfants !» Les habits noirs étaient groupés comme au début de la scène. Lecoq tenait le centre du groupe. Il ajouta très bas, mais d'un accent qui mit du froid dans toutes les veines. « Papa, laissez-moi conduire la chose. Que personne ne bouge. Il fait toujours nuit. » Son regard et celui du prince se choquèrent. Ce dernier gronda entre ses dents serrées « Ne me pousse pas à bout, toulonnais l'amitié !» Lecoq se mit à rire, et son rire déchirait comme une mesure. « Parce que tu vaux des millions pour nous, n'est-ce pas » dit-il. « Nicolas, pauvre Nicolas, tu ne vaux plus une pièce de 6 liards, ni pour toi ni pour nous. Eh, hey, bonhomme, tes millions sont à tous les diables. Mathurine Gorée est tombée d'apoplexie ce matin. » « Et morte ?» firent ensemble tous les habits noirs. « Et morte !» répéta Lecoq. « C'est pour cela qu'il fait nuit pour toi, en plein midi, Nicolas. » Le prince avait reculé, comme s'il eût senti le froid d'une vipère à ses pieds. « Il fait nuit, » dit-il à son tour, d'un ton de résolution désespérée. « Adieu va, couper la branche. » Il porta son mouchoir blond à son front, comme pour en essuyer la sueur. Un coup de feu éclata aussitôt sous bois. Lecoq chancela en étouffant un cri de douleur. « Je savais bien qu'il y avait plus d'un loup dans le fourré, » dit Pistolet. « Allons, Chamoiseau, à nous deux, en chasse !»« Que personne ne bouge !» cria Lecoq impérieusement. « C'est une égratignure !» Une ligne sanglante balafrait sa joue que la balle avait effleurée. Il avait fait un signe au vicomte Annibal Guillaujat qui s'inclina jusqu'à terre en présentant un pli ouvert à Paul Labre. Paul jeta les yeux sur le contenu du pli et changea de couleur. Sans prononcer une parole, il marcha vers le groupe des habits noirs. Nicolas, en le voyant approcher, se prit à trembler. Comme les gens de Paris s'écartaient au commandement de Lecoq pour laisser passer Paul Labre, le faux prince recula jusqu'au milieu des membres de la conspiration en balbutiant « Défendez-moi, on en veut à ma vie !» Les hobereaux se formèrent bravement en ligne, et les gendarmes, en vérité, arrivèrent à la rescousse soutenus par l'autorité. Les instructions étaient bonnes. Paul était sans armes. Il ne leva même pas la main, et pourtant il passa entre les deux fils portiers de la grille, écartés à droite et à gauche, comme si le choc d'un bélier les eût séparés. Il saisit le prince au collet au moment même où celui-ci mettait le pistolet à la main, et dit « Moi, Paul Labre, baron d'Arcis, inspecteur de police, je vous arrête, au nom du roi. » Et se tournant vers les gendarmes qui approchaient, précédant l'autorité, il ajouta, « Voici ma carte d'agent, je vous somme de prêter main forte à la loi. » Après quoi il chancela et tomba entre les bras du général comte de Champmas qui l'avait suivi. En tombant, il murmura, « J'avais juré de mourir avant de revenir là. » Mais j'avais juré aussi que s'il le fallait, j'irais jusque-là pour venger mon frère. Je n'ai pas menti, j'en mourrais. La carte portait les signatures voulues et le timbre de la sûreté. Elle déléguait P. Labre, inspecteur de police, pour exercer dans le département de l'Orne. C'était la chose apportée par le courrier du matin et dont Monsieur Lecoq s'était enquis auprès de Madame la comtesse de Clare. On dit que là-bas, dans les jungles de l'Inde, les bêtes féroces se livrent entre elles d'effrayants et magnifiques combats. Sans cela, les brahmines l'affirment, il n'y aurait plus une créature humaine entre l'Indus et le Gange. En Europe, nous n'avons pas de tigres, et je sais un proverbe qui déclare que les loups ne se mangent pas entre eux. Il ne faut pas croire aveuglément au proverbe, cette sagesse des nations est sujette à radoter quelquefois. Les chacals de nos savanes civilisées se mordent, Dieu merci, souvent, se déchirent et s'étouffent. Les gens bien informés prétendent que les meilleurs ennemis de nos loups sont des loups. Monsieur Lecoq était vainqueur. La mort subite de Mathurine Goret, qui anéantissait tout d'un coup le crédit du beau Nicolas, arrivait trop bien à point pour ne pas exciter les soupçons des habits noirs. Mais dans cette terrible boutique du crime, tout point marqué compte. C'est là que règne surtout la religion du fait accompli. À quoi bon aller au fond des choses quand le résultat tient lieu de loi? En vérité, personne ne prit la peine d'éclaircir par une enquête la question de savoir si l'apoplexie foudroyante de la reine Gorée était de bon aloi ou non. À part l'opportunité un peu exagérée de la catastrophe, il est certain que l'ancienne mendiante buvait de l'eau-de-vie deux fois plus qu'il n'en fallait pour crever comme une chienne brûlée. On trouva dans la ruelle de son lit trois bouteilles de remède au lieu d'une. Elles étaient vides. On ne trouva rien absolument dans le bahut qui lui servait de coffre-fort. Elle eut l'enterrement des pauvres. Personne n'y assista, sinon ce pauvre bon garçon du vicaire qu'elle appelait Fanfan. On parla un peu dans les champs et autour du foyer du méchant petit couteau de l'éclopé Vincent, mais on se gaussa surtout pendant toute une semaine de cette richesse fantasmagorique qui avait un instant ému tout le pays. Les gens de Paris partirent le lendemain. Ils emportaient, par le fait, un butin respectable. Le château neuf fut mis en vente. Mais tout n'était pas fini. Un mois après, une véritable nuée de gens de loi s'abattit sur le pays. Gars, filles, métayers et métayères furent bien forcés de croire à l'invraisemblable opulence de l'ancienne mendiante. Malgré la brèche faite par les habits noirs, malgré le ravage des hommes d'affaires, malgré la mauvaise foi des prête-noms et la trahison de la plupart des fidéicommissaires, malgré les frais de toutes sortes, le pillage judiciaire et le sac procédurier, une fortune territoriale sortie de là, haute, large, solide, monumentale, on peut le dire, une fortune qui est encore, à l'heure où nous sommes, la plus considérable de toute la France de l'Ouest. Le maître de ces richesses était Vincent Goret, le mutilé aux 35 sous de casse. Pas n'est besoin d'ajouter que depuis lors, de très illustres rats sont entrés dans ce fromage. On l'a timbré d'un titre ducal, et ainsi va le monde. En même temps que les habits noirs roulaient vers Paris en poste dans une bonne berline dont l'intérieur présentait le modèle de la plus parfaite concorde, le malheureux fils de Saint-Louis était dirigé sur la prison d'Alençon en compagnie de Paul Labre et de Clampin dit pistolet. Louveau avait été remis à la garde de Chamoiseau, son destin. Paul, usant de sa carte seulement pour forcer l'arrestation du prince, s'était volontairement constitué prisonnier. À moitié chemin d'Alençon, pistolet lui dit tout bas « Monsieur le baron, les affaires avant tout, pas vrai ?» J'ai fait un héritage dans la personne d'un bancroche millionnaire qui m'attend laissé en gage à l'auberge de la Ferté-Massé. Il faut surveiller ça. Au prochain relais, je vais vous tirer ma révérence à cette fin que mon autre protégé est quelqu'un qui sait la manière de s'en servir dans les conjectures délicates où va le plonger son quid à la loterie. Il y a des années que je suis porté vers vous par ma sympathie, avec le regret de n'avoir pas eu l'occasion plus de vous fréquenter. Ça va se présenter dorénavant, à cause de l'héritage du bancroche déjà cité, non content que l'entrée des premiers salons de la capitale en découle. On ne peut pas vous garder en prison, c'est clair, mais le Nicolas n'aurait qu'à se réconcilier avec son Lecoq, hein, en voilà un troisième rôle pour le théâtre de la gaieté. Monsieur Badois, que j'estime, quoique supérieur à lui par l'intelligence, vous dira que j'ai tous les aboutissants de l'épisode Gautron à la craie jaune. Quand ce sera mûr, faites-moi signe, par ce même Badois qui saura mon adresse, et je perdrai encore volontiers un jour ou deux pour faire un cinquième acte à ce drame-là et astiquer le dénouement imprévu du dernier tableau. La carriole qui contenait les prisonniers s'arrêta. On changea de chevaux. 2 heures après, pistolet éveillait Vincent Goret à l'auberge du Cygne de la Croix et disait, après lui avoir annoncé la mort de sa mère, « Bêta, si tu veux me nommer ton tuteur, jure-moi obéissance, je te donnerai tout à cuire et à bouillir, pris sur ta légitime, et de l'éducation, lavage en grand, linge propre, souliers cirés, 5 repas par jour, avec le Gloria. C'est à toi d'accepter ton bonheur, sans quoi je t'abandonne, incapable de dépenser plus de 75 centimes par jour à l'état naturel de ton ignorance.